Chers auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue au journal en français du studio Kalangou. Rafika Taher au micro. À la une, le fils du président déchu Salem Mohamed Bazoum, détenu depuis le coup d'État du 26 juillet, a bénéficié d'une liberté provisoire hier 8 janvier 2024. Le centre de santé intégré de Galma est confronté à une insuffisance de personnel soignant. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Et la partie magazine de ce soir nous amène à la découverte d'un groupement féminin Wadata de Birningaure. Salem Mohamed Bazoum, fils du président déchu Bazoum Mohamed, a bénéficié d'une mise en liberté provisoire hier 8 janvier 2024. Maître Saïd Ould Salem, l'avocat de la famille du président Bazoum Mohamed, confirme cette libération. De son côté, le ministère togolais des Affaires étrangères indique dans un communiqué publié à la même période que le fils de Mohamed Bazoum Salem a été libéré à titre humanitaire suite aux négociations entre la CEDEAO et les autorités nigériennes. Note nécrologique en brève. Le chef de canton du Kourfeye-Filenge, l'honorable Rahidou Marafa, est décédé ce mardi 9 janvier 2024 à Niamey. Né en 1941 à Filenge, Rahidou Marafa a été élu chef du canton du Kourfeye en 1993, canton qu'il dirigea 31 ans durant. Avec sa disparition, l'association des chefs traditionnels du Niger vient de perdre un de ses illustres membres, nous rapporte l'agence nigérienne de presse. L'ONG Lumière des femmes et filles de Maradi a lancé ce matin sa troisième cohorte du programme Haskemata qui concerne les jeunes filles mariées de 13 à 19 ans. Elles sont plus de 1000 femmes mariées de 5 communes de Maradi qui seront formées en alphabétisation et en santé de la reproduction. Pour la coordinatrice du programme Haskemata, Rukaya Sani Jamado, c'est compte tenu de leur vulnérabilité que ces femmes sont soutenues. Elle est au micro de Mohamed Maman.
C'est un programme pour les adolescentes mariées qui sont âgées de 13 à 19 ans dans les milieux ruraux. Nous leur faisons des cours d'alphabétisation pour les aider à lire et à écrire avec un autre cours qui s'appelle CVC, compétences de vie, là où nous leur apprenons comment vivre en société, comment savoir même parler, comment savoir négocier, comment vivre même une vie conjugale. Parce que dans la communauté rurale, comme j'avais dit, c'est des filles de 13 à 19 ans. Elles se marient tôt. Deux fois, on sait que la femme, si elle se marie à bas âge, de fois, c'est comme si son corps n'est pas mature. Elle peut faire face à plusieurs problèmes de la santé reproductive. Ce qui fait que nous leur sensibilisons sur l'importance de prendre soin de la santé reproductive. Comment faire même des consultations pré- et post-natales et comment même espacer leur naissance.
Galma est un village du Niger rattaché à la commune rurale de Doguerawa qui compte environ 8000 à 1000 habitants. Il se situe à 500 km de Niamey sur la route de Maradi. Galma a un centre de santé qui est confronté à plusieurs problèmes dont le manque des agents. Pour plus de précisions, écoutons les explications de l'infirmière de ce centre, Jamila Saleh Oumarou, au micro de Mariam Adé.
Quand il y a des pics de maladie, tu es au four et au moulin, car il y a les malades, les urgences. Et quand il y a une femme enceinte en plein travail d'accouchement, c'est encore compliqué. Tu ne sais même pas où mettre la tête. Surtout le CSI manque de personnel. S'il y avait plusieurs infirmières, on pourrait faire un planning de 2 agents par jour. Mais il n'y en a pas. Quand une femme en plein travail arrive et quand il y a une autre urgence médicale, on a des incompréhensions sur qui prendre en charge en premier. Une fois, il y a eu une pique et j'étais à la salle d'accouchement en train d'assister une femme. Avant même que je n'arrive, le malade était décédé. Et en ce moment, s'il y avait un autre agent que moi, on aurait pu l'éviter. Nous sommes vraiment en manque d'agents, surtout les sages-femmes. La logique voudrait que celles qui sont en ville soient un peu détachées et reparties vers les villages. Nous sommes aussi des femmes mariées, mais nous faisons la navette. Donc, qu'on fasse un effort pour qu'on puisse apporter un petit soulagement.
Toujours à Galama, d'après un décret présidentiel adopté en 2017 au Niger, les jeunes filles doivent aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce décret présidentiel a pour but de réduire les mariages forcés et précoces en favorisant l'accès à l'éducation des jeunes filles. Mais aujourd'hui, force est de constater que les jeunes filles ne sont pas toutes inscrites à l'école dans beaucoup de localités du Niger. Celles de la commune de Galma, département de Madawa, région de Tawa, vivent la même situation. Akil Ibrahim, inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de la commune de Galma, au micro de Mariam Adé.
La situation de la scolarisation des filles ici à Galma connaît un problème majeur. Parce que si on fait un tour dans les différentes écoles, les effectifs des filles sont en bas par rapport à ceux des garçons. Donc ce qui veut dire que nous avons une sous-scolarisation des filles au niveau de notre inspection. Cette tendance de moins de filles dans les écoles, peut-être c'est un manque de volonté. Les parents préfèrent envoyer les garçons que d'amener les filles. En novembre, nous avons fait une mission avec le maire, le représentant de chefferie, et la SCOFI et l'AFC de la commune pour sensibiliser les communautés dans les différents villages sur cette scolarisation de jeunes filles.
À Agadez, 70 enseignants contractuels du primaire des zones rurales abandonnent leur poste pour non-paiement de leur pécule pendant 3 mois. Saisi de la situation, en fin décembre, le directeur régional de l'éducation nationale d'Agadez explique que les dispositions sont en train d'être prises pour résoudre ce problème d'ici peu. Omar Hassan, au micro de Moussa Maman.
C'est seulement en décembre, principalement le 12 décembre, que une partie de ces enseignants-là sont venus me trouver pour me dire que voilà la situation dans laquelle ils sont. J'étais à peu près à un mois aussi de ma prise de service. J'ai cherché des explications et on m'a fait comprendre que non, c'est le code normal qui devait faire leur mandatement. J'ai appelé le Niamey, la direction des sources financières-là, qui m'a fait comprendre que non, exceptionnellement cette année, c'est à nous de faire le mandatement. On a fait la situation, ils sont au nombre de 70, 14 pour la première vague et 56 pour la deuxième vague. Je les ai reçus au moins 3 fois ici pour leur montrer en tout cas que nous aussi nous sommes vraiment préoccupés parce qu'on ne peut pas dire à un individu d'aller dans une brousse sans aucune ressource. Ils sont déjà partis, ils ont fait 3 mois sans un franc. Leurs ressources sont terminées. Et ils avaient même émis le souci d'attendre un peu et j'ai dit que je vais m'adresser aux inspecteurs pour qu'on ne puisse pas tout de suite dire qu'un tel a abandonné son poste. Il faut qu'on les comprenne aussi. Tu ne peux aller dans un poste que lorsque tu as de quoi manger. On espère que cette semaine, la situation pourrait se décanter.
Restons à Agadez où la première édition de la cérémonie officielle de port de toge a eu lieu vendredi dernier dans l'enceinte de l'amphithéâtre de l'université. Deux de leurs enseignants-chercheurs ont été élevés au grade de maître de conférence. Cela témoigne également de la maturité de l'université. Sama Arzika, recteur de l'université d'Agadez, un des récipiendaires dans l'explication du port de toge. Il est au micro d'Anis et Karim.
La cérémonie de port de toge, c'est quoi? C'est au niveau universitaire, c'est arrêté un vêtement officiel qu'on porte à quelqu'un, lorsque, surtout quand il s'agit des étudiants, lorsqu'il est à la fin des études, lorsqu'il réussit. Et on le porte, ce tabi-là, arrêté pour une consécration, pour dire qu'il est à la fin de ses études. C'est aussi une vieille tradition au niveau des universités que lorsque quelqu'un accède d'un grade à un grade supérieur, donc on te porte tout simplement cette toge-là qui consacre ou bien qui symbolise, si vous voulez, la maturité de la personne et à qui on porte la toge, le professionnalisme, la rigueur, la performance dans l'exercice, mais aussi dans la gestion de sa carrière. Nous étions deux ce matin, le vice-recteur et moi-même le recteur, et nous sommes passés au grade de maître de conférence. Donc, il y a eu cette cérémonie là où on nous a porté cette toge. L'intérêt de cette toge, ça veut dire que lorsque on regarde le port, ça veut dire que l'université a atteint une certaine maturité. Ça veut dire que l'université peut conseiller, peut aider et les gens qui souhaitent vraiment aller loin, peut aussi proposer des choses.
Lancé jeudi 4 janvier 2024, la campagne de lutte contre la cataracte se poursuit activement au centre hospitalier régional de Diffa. Comment on reconnaît une personne atteinte de cataracte? Quels sont les signes de cette maladie? Élément de réponse avec Dr Zachary Adamou, médecin ophtalmologiste au centre hospitalier régional de Diffa, au micro de Mani Moussa.
Pour reconnaître la cataracte, il faut forcément regarder l'œil de la personne. Et quand vous regardez le globe, l'œil du malade, vous allez voir tout au centre du noir de l'œil, vous allez voir une tache blanchâtre, ce qu'on appelle le cocori. Cette tache blanchâtre-là, c'est elle qui correspond à l'opacification de ce cristallin-là. Donc, c'est elle qui équivaut à la cataracte. Comme signe de la cataracte, le malade va remarquer que sa vision commence à baisser. La vision devient floue de loin. Il n'arrive pas à reconnaître les visages jusqu'à ce qu'il arrive à l'œil se ferme et il ne voit même pas la main qui bouge. Il voit seulement la lumière. S'il fait jour, il peut dire qu'il fait jour. S'il fait nuit, il peut dire qu'il fait nuit. S'il vient chez nous, on constate qu'il y a une tache blanchâtre au niveau de l'œil. On peut lui dire que c'est une cataracte. La prise en charge de la cataracte, elle est exclusivement chirurgicale.
La migration est loin d'être un phénomène nuisible comme la présentent certaines organisations. En effet, les ressortissants du département de Gotei de la région de Tillabéri, installés hors du Niger, appuient conséquemment les populations de cette entité administrative dans le paiement des impôts malgré le contexte économique difficile. Suivons à ce propos El Hadj Mahmoudou Tahirou, chef de village de Gotei, au micro de Omar Hama.
Cette année, Dieu merci, nous nous sommes bien organisés et les ressortissants de Gotei de la diaspora ont beaucoup contribué. La ville de Gotei compte 14 quartiers avec 1706 personnes imposables. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a que 4 quartiers qui n'ont pas encore fini de payer leurs impôts parce que les membres de la diaspora ont contribué chacun dans son quartier à payer ses impôts. Il y a aussi un quartier dénommé Mutakwere, dans lequel c'est le chef de quartier même qui a fait du porte-à-porte pour recouvrer la totalité des impôts. C'est d'ailleurs le premier à s'acquitter des impôts de son quartier à Gotei. Actuellement, il nous reste 4 quartiers. Et j'ai récemment appris qu'un natif d'un de ces quartiers a l'intention d'imiter ses frères de la diaspora en payant la totalité des impôts de son quartier. Il ne reste donc que 3 quartiers. Ainsi, pour l'année 2023, il ne reste que 400 100 francs d'impôts que Gotei n'a pas encore payé.
Hier après-midi, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA A, a perdu face au Lion du Sénégal, champion d'Afrique en titre, 1-0. Ce match amical rentre dans le cadre des préparatifs de la CAN Abidjan 2023. Le but sénégalais est marqué par Formos Mendy à la 99e minute du jeu, pratiquement à la fin du temps additionnel. L'autonomisation de la femme est une réalité dans le département de Birni. En effet, les femmes de cette localité mènent plusieurs activités et sont organisées en plusieurs groupements. Nous nous sommes intéressés au groupement Wadata qui regroupe 15 femmes transformatrices d'Arachide. Adama Hassan, présidente du groupement Wadata, au micro de notre envoyé spécial Oumou Marou de la partie magazine.
Quelles activités faites-vous au niveau de votre groupement?
Nous faisons le tocto, la pâte d'arachide, du louga, de l'arachide sucré et salé. Nous faisons tous les dérivés de l'arachide. Nous avons reçu une formation dans le domaine et nous avons acquis beaucoup de connaissances. Cela fait presque 25 ans que je travaille l'arachide.
Avez-vous une fois reçu de l'aide venant d'une ONG?
Oui, nous avons reçu de l'aide, de l'arachide et même des machines. C'est Swiss Contact qui nous a amené cette aide composée des machines pour notre travail et même des mortiers et des pilons. Nous sommes contentes de notre travail car nous gagnons des bénéfices. Cela nous permet de subvenir à nos besoins et de ne pas tendre la main à quelqu'un.
Comment se fait la production du tourto?
Voilà comment se fait le processus. Premièrement, on amène l'arachide à la machine pour le décortiquage. Ensuite, on passe à la cuisson. Après, on ramène à la machine une seconde fois pour moudre et bien mélanger. Nous ramenons la pâte à la maison où nous la pressons pour avoir le tourto. Pour la pâte d'arachide, nous faisons la friture. Par jour, nous pouvons travailler près de 10 sacs.
Il y a-t-il une différence entre le travail de l'arachide dans le temps et maintenant?
Il y a eu beaucoup de changements, puisque dans le temps, tout se faisait à la main, alors que maintenant, nous avons reçu des machines qui font le travail à notre place. Il y a beaucoup de bénéfices. Tout celui qui s'y met peut gagner, et si les ONG remarquent que vous êtes productif, ils vont vous aider. Lorsqu'ils ont entendu ce que nous faisons comme production, ils ont décidé de nous aider. J'ai vraiment gagné, car aujourd'hui, j'arrive à subvenir à mes besoins.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute. Les éditions continuent en langue nationale. Et tout de suite, place à Habiba Ahmed pour le journal en tamashek.